nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
On passe une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour une nouvelle émission qui va nous permettre de réfléchir à partir d'un article qui a été très remarqué de Bernard Heisenberg, plaidoyer pour un capitalisme éclairé. Bernard Heisenberg, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de passer quelques moments sur cette antenne pour parler de votre article et du sujet qui est en pleine actualité. Alors je rappelle ce que vous disiez il y a quelques années, beaucoup d'années déjà, dans un de vos ouvrages, et je vous lis. « L'espèce humaine ressemble furieusement à un véhicule en pleine accélération, conduit par d'innombrables pilotes vers un avenir incertain. » Alors je crois que près de 20 ans plus tard, ou quelque chose comme ça, on peut dire que vous aviez vu arriver les choses, et tout particulièrement dans votre article qui donc était paru chez Le Figaro début 2008. Donc c'était une vision anticipatrice personnelle d'une réflexion qui devait donc devenir beaucoup plus générale et qui a occupé beaucoup d'intellectuels à la lumière de la crise mondiale, économique et financière et sans doute morale que nous venons de traverser. Cela fait donc plus de 30 ans que vous plaidez pour doter le capitalisme de garde-fous pour lui éviter les dérives que, hélas, nous venons de connaître, notamment dans le troisième conflit mondial paru chez Plon en 1977 et dans la guerre économique mondiale que vous avez fait paraître chez Orban en 1991. Ces ouvrages en sont les brillantes illustrations. Avant qu'on rentre dans le sujet, je rappelle simplement, car tout le monde connaît votre parcours, vous avez été conseiller du président Georges Pompidou, vous avez été un grand banquier et vous êtes un humaniste qui dirigeait ou présidait un certain nombre d'organisations caritatives et de fondations. Et vous êtes aussi président du club des vigilants, la vigilance étant précieuse par les temps qui courent. Donc, les questions sur lesquelles je voudrais vous amener à apporter vos éléments de réponse, c'est tout d'abord de savoir sur les orientations qui viennent d'être prises pour reconstruire cet ordre économique, financier et moral mondial, notamment à travers le G20 ou encore avec des instances représentatives, notamment des employeurs, vous paraissent-elles correspondre à cet ordre tel que vous l'avez imaginé il y a maintenant quelques paires d'années ?
Écoutez, non, je ne pense pas être tout à fait satisfait. D'ailleurs, je ne le serai jamais, probablement, dans un domaine pareil. Je reviens une seconde sur l'expression que vous avez employée, qui effectivement figurait dans un de mes ouvrages, sur ces innombrables pilotes qui essayaient de diriger le véhicule Terre vers un avenir incertain. Alors, il y a quand même un élément un tout petit peu nouveau, qui est que le nombre des pilotes s'est réduit. Ils sont plus innombrables. Bon, si dans le domaine politique, il y a le G20. Bon, on peut considérer que même si le G20 n'épuise pas toutes les bonnes volontés politiques mondiales, avec peut-être une trentaine de chefs d'État ou une quarantaine, on a quand même, dans le domaine politique, la quintessence de l'exercice de la démocratie dans le monde. Mais cela dit, les politiques ne sont pas les seuls à imprimer un mouvement à la planète Terre. Il y a aussi les intellectuels, les moralistes, les entrepreneurs d'humanité, les patrons d'ONG, les grands scientifiques, les prix Nobel de différentes natures, de la paix. Enfin bref, il y a, je ne sais pas, entre 100 et 200 pilotes de notre planète. Et je dirais que par rapport à ce que j'imaginais il y a 20 ou 30 ans, il n'y a pas encore de grande unification. Et on sent que la direction est moins incertaine. C'est un progrès important. Alors, pour essayer de répondre à votre question, je vais peut-être élever un peu le débat et vous dire un mot du libéralisme dans lequel nous vivons, qui est un formidable moyen de développement partout dans le monde.
Partir de plus haut, donc. Oui.
De partir de plus haut, d'enrichissement moyen. Mais cette moyenne a la cruauté de laisser subsister des extrêmes en matière de richesse ou de pauvreté qui... pour certains, condamne ce libéralisme. Donc ce libéralisme existe. Il est devenu, aux yeux de certains, une forme de religion absolument intouchable, qu'il ne faut absolument pas contrôler, parce que il est en lui-même générateur
d'autorégulation.
De toutes les régulations. Il y a une espèce d'autorégulation de tout système libéral qui optimise, dans le fond, son efficacité. Alors qu'à mes yeux, au contraire, ce système n'a pas de garde-fou. Et par sa brutalité, conduit périodiquement aux crises que nous avons vécues. Et nous en avons vécu un certain nombre, depuis celle de la Grande de 1929, et puis toutes celles qui ont eu lieu pour la première d'entre elles de 1973, première crise pétrolière, de 80, deuxième crise pétrolière, de 90, crise de l'immobilier, de 93, crise en Extrême-Orient, l'an 2000, le dégonflement, ou 2002, le dégonflement de la bulle d'Internet, et j'en oublie 4 ou 5. Toutes ces crises, d'une certaine façon, sont à mes yeux l'indice qu'un libéralisme non régulé, conduit par sa brutalité, c'est sa brutalité qui fait sa force, qui fait la force du développement qu'il induit, qu'un libéralisme non tempéré débouche immanquablement sur des crises. Et on aura de nouveau une crise dans, pour l'instant, la périodicité de 7 à 10 ans, entre chaque crise, on aura de nouveau une crise dans quelques années, dans un domaine totalement imprévisible. Les régulateurs partout dans le monde sont en train de réfléchir à l'émergence de la nouvelle crise, à se doter de comités de veille, de sécurité, ouais, pour essayer d'imaginer là où viendra la prochaine crise. Ils ne trouveront pas l'endroit où elle est en train de se reconstituer, très probablement de façon souterraine. Ouais. Et elle surviendra tout simplement parce que le système est d'une telle brutalité qu'il conduit, à mes yeux, à des crises. Alors, comment faire en sorte qu'il ne conduise pas à des crises ? Eh bien, il faut le tempérer en lui amenant, en lui apportant un code éthique qui réduira peut-être un tout petit peu son efficacité, mais on peut essayer de trouver des moyens de ne pas aller trop loin dans ce freinage de la performance liée au libéralisme, mais qui en tout cas le rendra plus supportable, plus acceptable par le plus grand nombre et moins générateur de crise. Donc voilà le véritable enjeu à mes yeux de libéralisme. À partir du moment où vous n'avez plus qu'un système dans lequel communie toute l'humanité, y compris les régimes comme la Chine et d'autres, hein, je veux dire, qui sous les apparences du communisme pratiquent en réalité une société de marché, un libéralisme qui est tout aussi brutal que le nôtre, probablement. On a une espèce d'unification dans ce système qui mérite quand même réflexion et qui mérite encore une fois garde-fou. Alors l'avantage de ce système par rapport au marxisme, c'est que le marxisme est mort de son premier concert. Le libéralisme, lui, a chuté plusieurs fois, mais il s'en est toujours sorti. Hein, il a rebondi à chaque fois. Après ces différentes crises. Et d'ailleurs, ce sera certainement le cas cette fois-ci. Et d'ailleurs, peut-être même plus tôt qu'on ne le croit. D'ailleurs, j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Nous sommes comme les enfants de Lucrèce. Il faudrait relire Lucrèce. On aurait à apprendre Lucrèce dans les écoles, qui au milieu de l'Empire romain, écrivait déjà que nous adorons nous faire peur. Nous sommes comme des enfants. Et la crise actuelle l'a montré, je veux dire. D'abord, les médias ont amplifié nos peurs pendant plusieurs mois. Et ça n'est que depuis un mois, un petit mois,
que les choses se calment.
Que, ayant probablement senti que nous étions arrivés à satiété en matière de peur, ils ont commencé à nous délivrer au compte-goutte, mais le compte-goutte s'accélère, quelques bonnes nouvelles. Et il y en a quand même quelques-unes qui m'incitent à penser pour ma part, mais je suis loin d'être majoritaire.
Oui, je suis le témoin que vous avez toujours été un de ceux qui pensaient que la crise n'était qu'une crise parmi tant d'autres et qu'elle n'était certainement pas aussi profonde que ce qu'on voulait bien entendre.
En tout cas, on en sortirait et qu'on oublierait d'ailleurs les causes qu'elle nous avait, les peurs qu'elle nous avait fait connaître et qui sont importantes, cette espèce de fin de monde, d'ambiance de fin de monde qui était celle de la fin de l'année 2008 ou tout début de l'année 2009. Et donc, quand vous regardez d'ailleurs les articles des journaux de l'époque, ils ressemblent furieusement à ceux qu'on pouvait lire en 1974 au moment de la première crise pétrolière, quand la croissance en France est devenue négative et a chuté de 1,5% et de près de 2% aux États-Unis.
Quand même l'élément qu'on peut considérer comme nouveau, même si ça s'est étalé dans le temps, c'est la disparition, si je puis dire, de l'hyperpuissance en tant que telle américaine. Alors, c'est encore une puissance, mais l'hyperpuissance, il semble qu'elle disparaisse vers un autre ordre, je ne sais lequel. La Chine-Amérique, l'Euro-Amérique, Dieu sait quoi.
C'est vrai qu'on est dans un monde un peu plus multipolaire qu'auparavant. Ouais. D'abord parce qu'il y a l'Extrême-Orient et la Chine et l'Inde qui sont des continents qui se développent à une vitesse extraordinaire, d'ailleurs malgré la crise, encore aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus vite que nous. Et puis il y a l'Europe en construction, donc tout ça constitue un monde à au moins quatre pôles et non plus un seul, même si les États-Unis sont quand même encore sur le plan du libéralisme. Et même de la puissance économique et puis de la puissance militaire, effectivement un phare important. J'en viens à ces régulations. Comment tempérer ce libéralisme? Comment lui donner un minimum d'éthique qui le rende plus supportable à l'ensemble des habitants de la planète d'une part et qui permette de gommer les effets de sa brutalité et de sortir de ces crises à répétition? Écoutez, il y a plusieurs façons. Moi, j'en vois trois, a priori. J'espère que je ne vais pas en oublier une en route. Il y a les régulations, la norme, disons. La normalisation du système par des réglementations, autant que faire se peut au niveau mondial ou au niveau des grandes régions, en Europe, aux États-Unis, en Asie du Sud-Est. Enfin, autant que faire se peut quand même au niveau mondial. Bon, des réglementations. Il y a l'auto-réglementation, l'auto-fonctionnement qui consiste à créer des espèces de codes dans chaque pays, dans chaque secteur d'activité. Ça existe dans beaucoup de professions. Et d'ailleurs, vous, Jean-Louis Chambon, êtes bien placé pour le savoir.
Tout à fait, on
en
dira, élaboré. On en dira un mot tout à l'heure, oui.
Donc il y a l'auto-régulation. Au-delà de la normalisation, de la réglementation au niveau mondial. Et puis, il y a peut-être un code éthique de nature un peu plus spirituelle, la définition d'un code éthique de nature un peu plus spirituelle qui, par son mode d'élaboration, ceux qui auraient contribué à son élaboration pourraient féconder utilement, enfin, brillamment et en profondeur, pas brillamment, en profondeur le libéralisme. Alors moi, je dois dire que je pense que les trois sont nécessaires. Bon, pour ma part, je réfléchis davantage à ce code éthique au niveau mondial qu'à différentes formes de normalisation ou de autorégulation ou d'autocréation de codes internes à des corporations, à des métiers, à des professions, à des secteurs.
Donc, vous placez la barre beaucoup plus haut, en fait, donc au niveau supranational.
Plus haut, enfin, disons que je remonte d'un cran.
C'est ça, tout à fait.
Dans l'échelle de la réflexion. Alors, la normalisation, on va en faire, de toute évidence. Je ne suis pas trop mal passé pour savoir qu'au niveau, par exemple, de l'autorité des marchés financiers, de l'AMF, on va réguler ce qui ne l'était pas encore. On va réguler les agences de notation, on va réguler les hedge funds et leurs... leur effet de levier qui était gigantesque, était de 60, 100, enfin, cet effet de levier qui d'une certaine façon a été la cause de la crise. Donc on va réguler ce qui n'était pas encore, on va réguler probablement un peu mieux ce qui était déjà régulé. Il y aura des trous dans la passoire, on ne va pas forcément arriver à imaginer tout ce qui pourra se produire de nouveau, parce que les activités sont multiples, parce qu'il va se créer de nouvelles activités, de nouveaux produits. En tout cas, on va certainement agir dans cette direction, et on va le faire au niveau européen et même au niveau mondial. Ces deux niveaux sont déjà abondamment fréquentés par l'autorité des marchés financiers. Et il faut le faire, effectivement. Alors, il faut le faire sans tomber non plus dans l'excès de la bureaucratie, de la paperasserie, ce qui commence à être le cas. Je veux dire, dans les entreprises, la masse de papier consommée pour un certain nombre de régulations qui sont quelquefois secondaires commence à devenir un peu inquiétante parce que ça nécessite des tas de juristes qui ont quand même un rôle souvent un peu artificiel. Donc, on tombera peut-être un peu dans l'excès, mais il faut essayer de le limiter. Bon, l'autorégulation, elle existe dans nombre de professions, et d'ailleurs l'AMF l'impose à un certain nombre de structures.
Le MEDEF a sorti quelque chose sur les rémunérations, mais
c'est qu'une des parties. Alors il y a la transparence. Disons que la transparence joue un rôle important. Il faut désormais que tout soit affiché pour que tout actionnaire soit conscient de la façon dont son capital est géré. Et donc ça, on va y veiller. La transparence est vraiment un élément important de la stratégie des régulateurs financiers. Elle va jouer aussi, bien sûr, sur les rémunérations. D'ailleurs, dans ce domaine, je vous signale une idée que j'ai, qui pourrait non pas remplacer par tout ce qu'on exige maintenant en matière de transparence des rémunérations, des principaux salaires, mais qui permettrait de juger sur le moyen terme de ce qui s'est passé, de l'écart qui s'est créé entre les plus hautes rémunérations et les plus faibles. Moi, je suggère par exemple qu'un nouvel indice soit créé, qui serait le rapport entre le décile supérieur des salaires et le décile inférieur des salaires, et qu'on le mesure chaque année. C'est-à-dire qu'on ne porte pas de jugement, on le mesure, on le donne chaque année dans le rapport annuel, et puis on regarde l'évolution sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Je crois que ce serait de nature à probablement modérer certains.
Mais ces chiffres.
L'apparition de certains excès.
Ces chiffres sont normalement disponibles. Enfin, le rapport Cotis les a mis en valeur, enfin, les a donnés, les a mis sur la table, mais ils sont disponibles, ils ne sont pas cachés.
Ils sont disponibles, mais ils ne sont pas quand même.
Ils ne sont pas utilisés. Voilà, ils sont pas très, très utilisés.
Et surtout, la tendance à moyen terme n'est pas connue. Elle est connue. On sait que ce rapport a été multiplié par plus de 10 au cours de ces 30 dernières années, voire peut-être par plus de 20 ou 30. Mais ce qui serait intéressant, encore une fois, c'est de le voir évoluer au cours des prochaines années. Mmh. Et à mon avis, c'est un critère presque plus intéressant que celui de la publication des salaires des hauts dirigeants. Bon, l'un n'empêche pas l'autre.
Ce que montre le rapport Cotis, quand même, c'est qu'effectivement, il y a eu un creusement des inégalités salariales entre, comme vous dites, le décile supérieur qui a progresser dans des proportions absolument folles, mais aussi une injustice avec, si on peut dire, avec les classes médianes qui ont été écrasées à la fois par l'écart qui s'est creusé avec les hauts salaires et par aussi la remontée des bas salaires, ce qui fait qu'ils ont été écrasés entre les deux. Et effectivement, cet écart-là, alors il ne faut pas perdre de vue, bien sûr, les classes médianes, parce que c'est un petit peu...
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai utilisé le décile, parce qu'en vérité, si on voulait vraiment, pour tenir compte de la sensibilité actuelle sur ce sujet, mesurer ou donner une indication sur cet écart, il faudrait parler de millimes et non pas de décile. Mais à ce moment-là, on entre dans des choses un peu irrégulières et puis bon, qui visent une toute petite fraction de gens. Encore une fois, le fait de prendre des centiles, par exemple, permettrait effectivement de pondérer aussi par rapport à toute la catégorie des cadres moyens qu'on oublie un peu trop. Vous avez tout à fait raison. Donc voilà, normalisation, autorégulation. Et puis, j'en viens à ce qui me paraît presque, à mes yeux en tout cas, le plus important, la création d'un espèce de code éthique.
Mondial.
Mondial. Alors, c'est une nécessité, à condition qu'on n'ajoute pas par ce code éthique des réglementations à d'autres réglementations. C'est un code qui, à mes yeux, doit être un code susceptible de donner à l'appréciation des 6 milliards d'êtres humains, à charge pour chacun d'entre eux de l'appliquer ou pas, de l'appliquer à sa façon en plus, je veux dire, de se l'approprier, de dialoguer avec ce code éthique et d'en faire l'usage qui lui paraît conforme à ce que sa conscience lui dicte, mais qu'au moins il y ait un tel code. Alors quand je parle de cette liberté qui serait laissée à chacun dans le cadre de ce code éthique et de la responsabilité corrélatrice de cette liberté, là je fais allusion aux grandes religions monothéistes, au bouddhisme ou à certaines formes d'hindouisme qui conjuguent une certaine forme de normes et une grande liberté dans l'appréciation de ces normes qu'on peut, s'approprier, mais par un dialogue avec le créateur de ces normes et au travers aussi d'un dialogue avec l'autre, puisque ce sont des règles de comportement en société, c'est-à-dire des règles de comportement de chacun d'entre nous avec chacun des 6 autres milliards d'individus. Donc tout ceci, bien sûr, veut dire qu'on ne peut pas ériger des normes absolument rigides en termes d'éthique. Il faut qu'un certain nombre de principes, d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux bien connus, soient partagés et qu'encore une fois, les gens se les approprient et les déclinent à leur façon. Alors c'est ce qui existe dans les religions monothéistes et même dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Si vous prenez le judaïsme, vous avez des mots-clés en matière d'éthique que sont la justice, la dignité, la fraternité. Il y a des règles, et puis ensuite, ces règles, on les adapte et on les commente, je veux dire, on les comprend à sa façon. Je prends un exemple. La loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, 100%, hein, on ne peut tuer quelqu'un que si le sang a coulé. Est-ce que vous savez que cette règle est dans l'Ancien Testament ? Mais à l'époque du judaïsme, du peuple hébreu, je veux dire, la règle n'était quasiment pas appliquée, je veux dire. Et pourquoi ? Ouais. Parce qu'il fallait qu'un jury de 23 juges décrète une peine de mort en présence de témoins absolument irréprochables qui apportent au nombre de 3 minimum la certitude absolue qu'il s'était passé des choses absolument abominables. Et en plus, si ces 23 juges... condamnait une personne à mort en 67 ans, le jury en question était considéré comme un jury, comment dire, sanguinaire. Alors, oui. C'est vous dire que l'abolition de la peine de mort ne date pas de quelques années ou de quelques décennies, comme chez nous dans le judaïsme, elle date de l'époque de l'Ancien Testament.
Ah, oui, d'accord.
C'est-à-dire qu'on a interprété l'Ancien Testament et ça a conduit, de fait, dans une large mesure, à la suppression de la peine de mort. Et ceci, on peut l'appliquer aussi. Dans le fond, quand vous regardez l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Coran, ce sont des formes d'enseignement.
Donc, tout à fait.
On est enseigné par
cette pensée,
Dieu et par ses prophètes dans l'Ancien Testament. On est enseigné par Jésus dans le christianisme et on est enseigné par Mahomet dans l'islam. Mais on peut interpréter. Dans l'islam, la meilleure preuve en est que beaucoup de sourates se contredisent et qu'on est bien obligé d'interpréter. Autrement, on ne saurait pas quelle attitude adopter. Donc, il faut faire preuve de souplesse. En fait, le mot souplesse n'est pas le bon. Le vrai mot, c'est responsabilité. On prend ses responsabilités face aux autres et face à celui qu'on révère comme l'être suprême. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça ? C'est parce que ça veut dire en clair que le code moral en question, encore une fois, doit être un code de libre exercice qui implique la responsabilité. Mais il doit contenir 3 ingrédients qui sont les mots-clés qu'on rencontre absolument partout, dans toutes les religions monothéistes et les autres, qui sont dignité, justice, fraternité, équité, il y en a même 4. Et ce sont ces 4 mots qui sont un peu à la base de... Et savez-vous, par exemple, que le mot justice, que je mettrais même en premier par rapport à ceux que j'ai cités, selon certains linguistes, est le premier mot conceptuel qui a été inventé quand on a commencé à parler il y a, je ne sais plus combien, 100 000 ans, 80 000 ans.
Par l'homo sapiens.
Par l'homo sapiens sapiens, au moment où il a commencé à parler. D'ailleurs, il y a eu probablement plusieurs langues initiales, matricielles, et non pas une seule, disent aujourd'hui la plupart des linguistes. Et le mot justice, alors les premiers mots, bien sûr, ont été les mots faim, soif, peur, papa, maman, enfin on peut imaginer
primitif,
ce qu'ils ont été. Et le premier mot conceptuel, selon certains, a été le mot justice.
Justice.
Et c'est vrai que la locution « ça n'est pas juste » est une locution qui est très forte, qui exprime un ressenti profond partout dans le monde, quel que soit le peuple, l'individu qui l'utilise.
Je reprends en synthèse ce que vous venez de développer, ce que vous écriviez d'une façon extrêmement lumineuse dans une note qui était parue en septembre 2008. Ce code mondial ne peut être établi que par des entrepreneurs d'humanité, théologiens des grandes religions et des pensées universalistes, fondements des droits de l'homme, des prix Nobel de la paix, aux responsables d'ONG, etc. C'est exactement ça. Donc pour vous, effectivement, le débat se situe au niveau supranational. Et c'est sur ce plan qu'il faut construire l'ordre mondial. Alors ça n'empêche pas, enfin, j'imagine que vous serez d'accord avec moi, que les initiatives, on va dire, nationales ou locales, ou de métiers contribuent à cette construction. C'était le cas probablement des recommandations du code AFEP-MEDEF. C'est aussi probablement le cas de l'initiative qui a été prise par les dirigeants salariés en construisant, on va dire, un code de bonne conduite, où on retrouve ce que vous disiez, puisqu'on retrouve l'exemplarité, la loyauté, le courage, enfin, des valeurs fondamentales de comportement et d'action. Mais cela étant, effectivement, ça ne peut parler et avoir du sens qu'au niveau supranational. Alors, je reprends pour que nos auditeurs...
Pour compléter ce que vous venez de dire, Jean-Yves Chambon, un exemple encore, dans l'Ancien Testament, dans la Torah, vous avez des passages suivant lesquels le commerce entre les hommes doit être équitable.
Tout à fait.
Ben, écoutez, quand vous déclinez cette proposition, cette formule, ça veut dire en gros que les enrichissements sans cause,
c'est ça, sans à bannir,
sont condamnés d'une
tout
certaine
à fait,
façon.
Tout à fait, tout à fait.
Hein, donc on ne fait que insolents et sans cause sont condamnés. Donc vous pouvez trouver, si vous prenez comme base les religions monothéistes, et puis encore une fois dans le bouddhisme et l'hindouisme, et certaines plusieurs formes d'hindouisme, vous avez des trésors en matière d'éthique extraordinaires, vous pouvez arriver à un code qui ne soit pas sans résonance avec ce que nous vivons, et qui en plus aurait l'énorme avantage, l'énorme privilège, de faire vibrer 6 milliards d'individus, parce que chacun des 6 milliards d'individus se sentirait représenté, parce qu'il est chrétien, juif, musulman, libre penseur, parce que la religion des droits de l'homme doit jouer un rôle essentiel dans ce domaine. Je dis religion des droits de l'homme sans aucun sens péjoratif, bien au contraire. C'est plutôt ma religion à moi, d'ailleurs, dans une large mesure. Hein, c'est une religion, parce qu'il y a des textes superbes qui la propagent, hein, ceux issus de notre évolution, ceux qui sont... en préambule de la constitution de la Ve République ou de la constitution des Nations Unies. Donc si vous regardez tous ces textes, toute cette sagesse accumulée au travers de ces religions monothéistes, laïques, d'Extrême-Orient, vous avez là des trésors absolument fantastiques qui permettraient encore une fois, me semble-t-il, si on en extrayait quelque chose de commun, et ça ne me paraît pas du tout impossible, de faire vibrer 6 milliards d'individus et de les faire adhérer en moyenne à quelque chose qui limiterait les excès que nous vivons aujourd'hui, qui les condamnerait pas tous, il y aurait toujours bien entendu des gens...
Les hommes sont les hommes.
Les hommes sont les hommes. C'est à ce moment-là que la normalisation par la réglementation jouerait son rôle, au-delà du code en question, mais l'apparition de ce code en lui-même ferait probablement que le libéralisme se tempérerait et qu'on éviterait peut-être ces crises à répétition.
Alors, on demande d'avoir nos auditeurs en la démonstration que vos convictions n'ont pas bougé. Vous disiez dans une note aussi récente, cela fait plus de 30 ans que je plaide dans ce sens, et je lis ce que vous écriviez dans votre remarquable ouvrage en 1991, qui s'appelait « La guerre économique », si mes souvenirs sont bons.
Hein, c'est la guerre économique mondiale.
La guerre économique mondiale, hein, qui était parue chez Plon, si je me souviens bien. Je lis donc ce que vous écriviez. « Un supplément d'âme permettra-t-il à une civilisation de renaître quelque part sur la planète pour la féconder à nouveau ? Pourquoi pas en Europe, où une patte humaine, malléable, curieuse, diverse, adossée à d'anciennes cultures, crée un terreau particulièrement favorable. La planète a pris la route des choses plutôt que celle de l'esprit. Quelques humanistes de la compétition des temps modernes apporteront-ils au monde cette impondérable qui donnerait au monde des marchands et des conquérants économiques un minimum de morale et de grâce ? Je crois que tout est dit, tout était déjà dit. Et en tout cas, c'était un immense plaisir d'avoir passé ce moment sur la promesse d'un capitalisme éclairé. En tout cas, Président Bernard Heisenberg, merci mille fois pour votre patience à nous faire partager ces convictions.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci beaucoup.